quoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le 5 octobre 2023 et il est 18h30 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide, direct de Washington DC, pour vous présenter Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir: au Tchad, le gouvernement émet un mandat d'arrêt international contre l'opposant Succès Mafra. L'armée française entame son retrait du Niger cette semaine, alors que Niamey veut un départ selon ses conditions. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine affirme être assigné à résidence. Au Soudan, le manque de fonds et l'insécurité freinent l'arrivée de l'aide d'après l'ONU. L'Azerbaïdjan se dit prêt à des pourparlers avec l'Arménie sous médiation européenne au moment où les deux pays s'accusent mutuellement de tirs sur leurs troupes respectives près de la frontière. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Au Tchad, le gouvernement a émis un mandat d'arrêt international contre Succès Mafra, président du parti Les Transformateurs. Mahamat Eladj Abba Nana, le procureur général après la cour d'appel de N'Djamena, accuse l'opposant en exil de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, d'incitation à la haine et de soulèvement insurrectionnel, d'atteinte à l'intégrité du territoire national et d'atteinte contre les institutions de l'État. Les propos suivants ont été attribué à l'opposant sur sa page Facebook le 23 mai dernier. Je cite: « Parce que l'appel à la paix du faible est inaudible, devenez des boucliers volontaires de défense de l'intégrité et de volontaires de la dignité. » Fin de citation. Ce mandat surgit alors que Succès Mafra a fait part de son retour pour le 18 octobre prochain. Les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays dans la semaine, d'après l'état-major des armées tricolores. Mais cette déclaration intervient dans un contexte de relations toujours tendues avec la junte de Niamey, qui dit vouloir un départ selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. Le point avec Alexandrine Rolognon.
L'état-major français a indiqué ce matin lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens. Ce retrait devrait être achevé d'ici la fin de l'année, selon le communiqué. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, les militaires au pouvoir au Niger ont affirmé qu'ils seront attentifs à ce que ce retrait se fasse dans le respect de leurs intérêts et selon leurs conditions. Cette décision intervient après un bras de fer de plus de 2 mois entre la France et le régime militaire issu du coup d'État du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le 24 septembre la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif des militaires français présents dans le pays.
En Ouganda, Bobi Wine, le dirigeant du principal parti d'opposition, affirme être assigné à résidence après avoir été arrêté par des agents de sécurité à son retour d'une tournée à l'étranger. La police, quant à elle, indique avoir simplement accompagné l'opposant chez lui. Les précisions de Nanit Talani.
Je suis assigné à résidence. Les soldats et les policiers sont partout. Dès que j'ai atterri, des sbires du régime m'ont attrapé, traîné, m'ont tordu les mains et m'ont emmené dans une voiture, a déclaré Bobi Wine depuis son domicile à Kampala, la capitale. Monsieur Wine demande également la libération d'au moins 300 de ses partisans arrêtés, dont des dirigeants de son parti, une information que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante. L'opposant ougandais était arrivé à l'aéroport d'Entebbe jeudi matin en provenance d'Afrique du Sud via le Rwanda après une tournée visant à promouvoir un documentaire sur lui diffusé par National Geographic et intitulé « Bobi Wine, le président du peuple ». La police a affirmé que les agents de sécurité avaient juste accompagné l'opposant jusqu'à chez lui. Les partisans de Bobi Wine avaient prévu de l'accompagner en masse à son domicile depuis l'aéroport, mais, d'après la police, de tels rassemblements sont illégaux. Ancien chanteur Robert Kyagulani, alias Bobi Wine, était, à la présidentielle de 2021, le principal rival de Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 1986.
Un ancien tout-puissant Premier ministre du Burundi est maintenu en détention provisoire dans la capitale politique Gitega. Alain Guillaume Bunyoni est accusé de saper la sécurité nationale et dont le procès s'est ouvert à la fin du mois dernier. Il a été démis de ses fonctions en septembre 2022, quelques jours après que le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, avait condamné des velléités de coup d'État. Alain Guillaume Bunyoni, qui a été arrêté en avril dernier dans la capitale économique Bujumbura, était de longue date considéré comme le véritable numéro 2 du régime et le chef de file des durs parmi les généraux œuvrant dans les coulisses du pouvoir. Le manque de fonds et l'insécurité liés aux affrontements que se livrent l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan freinent les efforts des Nations Unies pour apporter une aide à 18 millions de personnes dans le besoin. C'est ce qu'a déploré l'ONU à Genève aujourd'hui, davantage avec Yacouba Boudraougou.
Nous avons besoin de plus de soutien international, d'un meilleur accès aux personnes qui ont besoin de nous et de sécurité pour nos opérations, a déclaré la numéro 2 de l'ONU au Soudan, Clémentine Kouéta Salami. Elle a rappelé que 19 membres d'organisations humanitaires ont été tués depuis le début du conflit mi-avril et 29 autres blessés. La responsable onusienne souligne que dans de nombreux cas, les efforts des travailleurs humanitaires sont entravés malgré qu'ils prennent le soin d'indiquer où ils sont et ce qu'ils font. Depuis le 15 avril, les combats sanglants entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont fait 7500 morts, des millions de déplacés et réfugiés. Mais des bandes armées arabes et des criminels s'en prennent eux aussi à l'aide humanitaire, qui est parfois victime de pillages. À la mi-septembre, près de 3000 tonnes de fournitures humanitaires ont été livrées par 66 camions à travers 6 États, a indiqué Clémentine Kouéta Salami. La présence obligatoire de militaires pendant les chargements des camions à Port-Soudan, où l'ONU a redéployé son quartier général, et les retards dans l'obtention des visas sont d'autant d'obstacles supplémentaires. Sur les 2,6 milliards de dollars que demande l'ONU, seulement un tiers est financé, a rappelé Mme Kouéta Salami.
La police kényane a coopéré avec des services de renseignement du Soudan du Sud pour enlever un dissident au régime sud-soudanais et le transférer de Nairobi à Djouba, d'après une enquête publiée aujourd'hui par les membres d'une commission indépendante des Nations Unies. Ces experts, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, bien que mandatés par le Conseil des droits de l'homme, ajoutent que Maurice Mabior avait disparu après avoir été renvoyé de force au Soudan du Sud en février dernier. Nous supposons qu'il est toujours en vie et sous la garde du service de sécurité nationale, a déclaré à Nairobi Carlos Castrenana Fernandez, l'un des trois membres de la commission.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Azerbaïdjan se dit prêt ce jeudi à des pourparlers avec l'Arménie après sa victoire éclair contre les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Mais cette annonce intervient le jour même où les deux pays s'accusent mutuellement de tirs sur leurs troupes respectives près de la frontière. Les détails avec Dili Dikou.
Le ministre arménien de la Défense a affirmé que des soldats azerbaïdjanais ont ouvert le feu sur un véhicule transportant des provisions près de Norabakh, une ville arménienne située tout près de la frontière, sans faire de blessés. Du côté azerbaïdjanais, le ministre de la Défense a évoqué des tirs arméniens contre ses troupes dans une région voisine. Alors que les deux pays s'accusent mutuellement, l'Azerbaïdjan a affirmé être prêt à des pourparlers avec l'Arménie sous médiation de l'Union européenne après avoir mené une offensive victorieuse dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan est prêt à participer prochainement à Bruxelles à des réunions tripartites entre l'Union européenne, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a assuré Hikmet Hayev, conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Les discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan devaient être l'un des points d'orgue du sommet européen organisé ce jeudi à Grenade, en Espagne, mais le président azerbaïdjanais a choisi de ne pas s'y rendre.
Pour sa part, le président russe juge que la reprise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan était inévitable après des critiques de son allié arménien qui accuse Moscou d'inaction. Mais Vladimir Poutine ajoute que l'Arménie est toujours l'allié de la Russie. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'Azerbaïdjan ne commence à rétablir l'ordre constitutionnel dans cette région, a conclu le maître du Kremlin. Au moins 51 personnes, dont un enfant, ont été tuées par une frappe russe dans le village de Groza en Ukraine. Pendant un rassemblement en marge des funérailles d'un de ses habitants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, actuellement en Espagne pour une réunion avec des dirigeants européens, a parlé de crimes russes manifestement brutaux dans cette localité située près de Kupiansk, une ville à proximité de la ligne de front qui est régulièrement la cible de bombardements russes. Justement, réunis ce jeudi à Grenade, autour de Volodymyr Zelensky, près de 50 dirigeants du continent européen ont exprimé leur inquiétude sur l'appui américain à Kiev. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, les nouvelles économiques, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le capital naturel du Mali offre des opportunités pour le financement privé de la lutte contre le changement climatique et la croissance verte, indique la BAD dans son rapport 2023 sur le Mali, lancé le 3 octobre à Bamako. La Banque africaine de développement recommande donc au Mali d'exploiter son vaste potentiel de capital naturel pour mobiliser des financements privés en faveur du climat et de la croissance verte. L'entreprise italienne Eni a remporté les droits de concession de 2 des 4 blocs d'exploration pétrolière et gazière mise aux enchères en Égypte mardi, indique le ministère égyptien du pétrole. Eni a également remporté un 3e bloc avec d'autres sociétés en mer Méditerranée, tandis que l'entreprise russe Zarubevnef, qui opère déjà dans 7 pays dont l'Égypte, s'est vue attribuer un bloc dans le delta du Nil. Pour terminer, le volume du commerce mondial de marchandises ne devrait augmenter que de 0,8% cette année contre une prévision de 1,7% à cause des tensions géopolitiques et l'inflation, selon l'Organisation mondiale du commerce. Le ralentissement projeté du commerce pour 2023 est préoccupant en raison des conséquences négatives pour le niveau de vie des populations du monde entier, indique la directrice générale de l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala.
Et maintenant, en résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les Marocains se réjouissent de l'attribution du Mondial 2030 à leur pays, au Portugal et à l'Espagne.
Oui, c'est un sentiment de joie partagé dans les rues de Rabat, la capitale du Maroc.
Je suis très contente en tant que Marocaine de pouvoir avoir cette fierté d'organiser la Coupe du Monde de football en 2030 avec l'aide du Portugal et de l'Espagne. Ce serait un très grand événement et j'espère qu'il y aura la même joie de vivre qu'en 2022 pour la Coupe du Monde.
On est très heureux, on espère que ça va se passer dans les conditions excellentes, Inch'Allah, que le Maroc gagne.
Pour rappel, hier, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines de football se sont accordés autour d'une candidature unique pour le Mondial 2030, présenté par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec 3 matchs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Ce sera le centenaire de la Coupe du Monde masculine, dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930.
Les équipes russes des moins de 17 ans pourront jouer la Coupe du Monde.
La FIFA a levé la suspension des équipes de foot russes des moins de 17 ans. Cette décision fait suite à celle du 27 septembre de l'UEFA, l'instance européenne du football, de réintégrer les équipes russes des moins de 17 ans dans ces compétitions. Ces équipes russes devront jouer sous le nom de Fédération de football de Russie et non Russie. Leur drapeau et leur hymne national resteront interdits et elles devront arborer des couleurs neutres, a précisé la FIFA. Les équipes russes ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans qui commence dans un mois en Indonésie. Elles n'ont pas pu participer aux qualifications. Les Russes étaient exclus de toutes les compétitions internationales de football, en club comme en sélection, depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes en février 2022, une décision prise conjointement par l'UEFA et la FIFA.
Tennis, l'américaine Coco Gauff qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Pékin.
La numéro 3 mondiale a arraché son ticket pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin en éliminant la Russe Veronika Kudermetova. Coco Gauff, récente vainqueur de l'US Open, s'est imposée en 2 manches 7-6-6-2. Elle affrontera en quart la grecque Maria Sakkari ou la chinoise Wang Xinyu. De son côté, Caroline Garcia a écarté l'Ukrainienne Anelina Kalinina en 2-7, 6-3, 6-2. En quart de finale, la Française va affronter la Polonaise Iga Świątek, numéro 2 mondiale.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en programme de VOA Afrique. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci de votre fidélité. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Congo-Brazzaville, les ninjas, un groupe de combattants rebelles qui auraient déposé les armes, attendent toujours le retour à une vie normale. Dans les villes et villages du pays où ils se trouvent, un cri unanime résonne, leur réintégration pleine et entière. À Kinkala, le chef-lieu du département de Poule, un forum récent piloté par le Centre d'action pour le développement a vu les habitants exprimer un vœu ardent, accélérer la réinsertion de ces anciens miliciens ninjas. Le reportage sur place de notre correspondant Arsène Séverin.
Si le calme règne déjà depuis quelques années dans le Poule, la présence des ninjas ne rassure pas la population. Ces derniers, en effet, ne sont toujours pas réinsérés dans la vie sociale, tels que le stipulent les accords de paix de 1999, de 2002 et récemment de 2017. Un habitant de Kinkala s'interroge éperdument.
Que sont les chefs de quartier qu'on a responsabilisés pour sensibiliser les ninjas. Enfin, mais est-ce que les ninjas vont même les écouter? Le seul et l'unique monsieur capable d'opérer normalement, c'est de prendre le révérend pasteur Ntoumi, chef des ninjas, d'organiser la sensibilisation, l'identification et tout ce qui s'ensuit.
Ils sont aujourd'hui quelques 5000 ninjas en stand-by, partis depuis des années et dont les parents attendent indéfiniment le retour. Noël Milanzambi, un des parents résidents à Kinkala.
La dissolution ne consiste pas seulement à leur donner du travail, à leur donner de l'argent, mais la dissolution consiste aussi au retour de ces enfants-là dans les bras de leur famille, parce qu'ils doivent créer leur famille aussi. Mais ils ne vont pas les créer pendant qu'ils sont en attente d'une situation qui ne naît jamais.
Des jeunes qui ont pourtant du potentiel et aptes à travailler, tel que l'indique Marcel Bicou, ingénieur des travaux.
C'est moi qui ai fait le voyage de Kinkala. Après que la SPC, je suis parti à dragage. J'ai commencé la route Kinkala Migori. La quasi-totalité des jeunes qui travaillent ici ne sont pas du département du Poule. On a des jeunes qualifiés, ils ne sont pas employés. Mais la main-d'œuvre doit être réservée aux gens du département du Poule. Les gens qui ne sont pas préparés ou bien qualifiés, on doit les former.
Le samedi dernier, le Centre d'action pour le développement CAD a organisé un forum pour la démocratie et les droits humains. Plusieurs personnes sont venues pour s'exprimer et interpeller les autorités. Trésor Ndila Kende, directeur exécutif du CAD.
La lourde responsabilité que nous avons en tant que défenseurs des droits humains pour accompagner ces populations à la recherche des solutions. Je suis satisfait de la rencontre. Ces femmes et ces hommes se sont exprimés en toute liberté. Les solutions ne viennent pas tout de suite, mais on continue à faire pression, on continue à rappeler. C'est de la responsabilité de nos dirigeants de résoudre nos problèmes. Mais nous avons le sentiment que ça traîne dans les prises de décision. Peut-être que les priorités sont ailleurs.
Le CAD promet de transmettre toutes ses préoccupations auprès des autorités. De retour de Kinkala, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Togo, l'heure tourne et l'inquiétude monte. La dynamique pour la majorité du peuple, une coalition de partis d'opposition, pointe du doigt le gouvernement, l'accusant de tergiverser délibérément face aux élections législatives prévues à la fin de l'année en cours. Alors que le mandat de l'Assemblée nationale actuelle touche à sa fin dans 3 mois, l'absence de date et de planification suscite des craintes d'une prolongation de l'échéance. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Boussou.
Annoncé pour se tenir avant la fin de cette année, le processus devant aboutir aux élections législatives est dans l'impasse. C'est ce que pense Kafui Adjamagbo, secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains, membre de la dynamique pour la majorité du peuple. Elle accuse le gouvernement en place.
Le régime porte l'entière responsabilité de la situation que nous vivons en ce moment. C'est de sa faute si le processus électoral est rentré dans une sorte d'impasse. À force de vouloir faire des calculs, de vouloir utiliser tous les moyens pour s'assurer qu'encore une fois, les élections seront organisées de manière opaque pour qu'on puisse, au travers de ces élections-là, se prévaloir d'une assise légale pour continuer à dominer le pays.
Le mandat de l'Assemblée nationale actuelle s'achève le 31 décembre prochain. Gérard Adja, porte-parole de la DMP, avertit qu'il n'est pas question de prolonger le mandat des députés comme le prévoit la Constitution.
La DMP n'acceptera pas qu'il y ait une prolongation de fait ou organisée par le pouvoir de manière unilatérale toute décision sur la prolongation éventuelle du mandat de l'actuelle Assemblée nationale devra être le résultat des discussions franches et sincères dans un cadre au cours desquels l'ensemble des problèmes à résoudre seront évoqués.
Pour Sylvestre Béni, journaliste et analyste politique, le pouvoir a le beau rôle dans cette situation. Les dispositions de la Constitution togolaise sur la prolongation du mandat des députés sont très claires.
Lorsque vous prenez donc la loi fondamentale, la disposition segmentée, l'alinéa 11, il est dit que les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de ceux qui vont venir. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons déjà observé en 2012. Et à l'époque, c'est la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée en se fondant sur les dispositions de l'article 52 alinéa 11. Voyez-vous, donc la situation que nous vivons aujourd'hui, le pouvoir peut se dire, nous sommes dans la légalité.
Kafui Adjamagbo, secrétaire général de la CDPA, estime qu'on ne saurait évoquer la parade constitutionnelle pour maintenir une Assemblée nationale qui n'a pas été utile au Togo et qui a aidé le pouvoir à appauvrir les Togolais.
Mais vous vous rendez compte, est-ce que ce ne serait pas trop facile de se baser sur cette disposition pour laisser en place une Assemblée sans aucune légitimité? Et donc, nous pensons que prolonger ce mandat-là, ne serait-ce que d'une seconde, est préjudiciable aux Togolais.
L'opposition qui avait boycotté les législatives de 2018 tient à l'organisation de ce scrutin dans les meilleurs délais pour son retour à l'Assemblée nationale. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Sénégal, plusieurs candidatures à la présidentielle ont été annoncées, dont celle d'une poignée de femmes. En 2012, la docteure en droit Amsatou Soy Sidibé fut la première femme à se présenter. En 2019, sa candidature et celle des deux autres femmes ont été rejetées. Jointe par Nathalie Barge, elle explique comment se déroulent ces déplacements pour collecter les 45 000 parrainages nécessaires. Nous écoutons Amsatou Soy Sidibé.
Sur le terrain, il y a des militants et des militantes qui sont prêts pour organiser un grand accueil au cours duquel, eh bien, une sympathie, l'acceptation d'un projet est présent. Mais j'ai vu que quand même les Sénégalais vous demandent, c'est quoi votre projet? Si c'est un projet intéressant, ils acceptent de soutenir. Et puis bon, les femmes, surtout, je discute avec elles, je vais les voir, elles sont intéressées. Parce que en étant présidente du RAFET et ensuite présidente de Amsa Diapelé, j'ai beaucoup travaillé à l'autonomisation économique des femmes. Je fais partie des premières personnes à avoir initié au Sénégal ce qu'on appelle la calebasse leket. C'est un système de mini-banque avec des cotisations permanentes. Les femmes arrivent à mettre en place des mini-banques comme les crédits mutuels, comme le PAMECAS. Le fruit, c'est de l'argent qu'elles se partagent pour mener des activités génératrices de revenus. Donc, elles sont intéressées.
Vous avez joué un rôle primordial dans l'adoption de la loi sur la parité en politique au Sénégal. Qu'en est-il aujourd'hui et quelle est la portée de cette loi?
Alors la parité, elle est née dans mon bureau. avec une jeune femme qui s'appelle Fatou Camara. Nous avons transmis aux ONG, aux associations de femmes, aux différentes organisations qui s'intéressent à la question des femmes. D'abord un courrier, ensuite une première mouture qui est à l'origine de la loi sur la parité. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas la parité totale, mais il y a environ 44% de femmes à l'Assemblée nationale. Et puis, l'Observatoire national des élections est en train de tout faire pour que, eh bien, la parité soit respectée dans tous les bureaux, y compris au bureau de l'Assemblée nationale, mais dans les bureaux municipaux, parce qu'il y a une hésitation ou en tout cas, parfois, un manque de volonté pour assurer la parité dans les bureaux au niveau municipal et départemental, mais ça se corrige et il ne reste pratiquement plus grand-chose puisque les cours d'appel elles-mêmes ont rappelé que les bureaux des conseillers municipaux et départementaux doivent être paritaires.
Comment encourager la participation des femmes en politique et les amener à comprendre l'importance de leur présence ?
Qu'elles ne participent pas au plus haut niveau de la prise de décision, c'est du gâchis pour la société. On a besoin que les femmes prennent leurs responsabilités et participent au plus haut niveau.
C'était Amsa Toussoye Sidibé, candidate déclarée à la présidentielle au Sénégal.
This is the voice of America. Washington,
ici aux États-Unis, le Festival des cultures du monde a récemment fait vibrer Washington, la capitale. Trois jours durant, la diversité culturelle a été à l'honneur, portée par des artistes venus des quatre coins du globe pour partager leur art, leur danse et leur mélodie. Plongé dans cet univers avec le reportage de Sims Lumami, relaté par Michel Joseph.
Des milliers de personnes représentant diverses cultures sont venues sur le mall de Washington DC, l'esplanade au cœur de la capitale américaine, pour trois jours de spectacles et de discours captivants qui ont célébré la paix et l'harmonie mondiale. Le festival était organisé par la fondation Art of Living, une organisation bénévole active dans plus de 180 pays. Pour son fondateur, le célèbre chef spirituel Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, le festival offre une plateforme pour célébrer les cultures du monde.
L'esport, comme les Jeux Olympiques, invite les gens du monde entier, ainsi que le Forum économique des Nations Unies. Ce sont toutes des plateformes où les dirigeants et les sportifs se réunissent. Mais il n'y a pas de forum pour la culture. Et donc, ce festival comble ce vide. Il s'agit d'un forum qui a lieu tous les 5 ans. Les gens sont invités à venir et à en faire partie. Ce festival accueille non seulement une ou deux célébrités qui viendraient exposer leurs talents. Mais surtout, ici, vous savez, nous donnons une plateforme aux masses populaires.
Des millions de personnes ont assisté au précédent festival organisé en Allemagne et en Inde. Cet événement, qui en est maintenant à sa 4e édition, a réuni plusieurs dirigeants politiques et religieux, locaux et internationaux.
Ce festival montre comment nous pouvons tous nous rassembler et nous unir dans la paix et l'harmonie du Capitole au Washington Monument. Ce que vous voyez ici, ce n'est rien d'autre que de l'amour.
Le docteur Vivek Murthy est le 21e chirurgien général des États-Unis, c'est-à-dire le médecin en chef du pays. Il a souligné le lien entre l'art et la santé.
Les arts sont profondément liés à la santé et l'une des choses les plus importantes que fait cet événement est de rassembler les gens, pas seulement physiquement à proximité les uns des autres, mais en réaffirmant l'idée que nous avons besoin les uns des autres et que nous devons nous montrer les uns pour les autres. Nous devons réaffirmer les valeurs fondamentales de la gentillesse, de la générosité et du service. C'est le ciment dont nous avons besoin pour rassembler le monde. Je suis donc heureux d'en faire partie.
Le festival a présenté des prestations de la légende du hip-hop, Curtis Blow, ainsi que le petit-fils de Bob Marley, Skip Marley. Selon les organisateurs de l'événement, plus de 450 000 personnes provenant de 180 pays avaient réservé des billets pour le festival.
Et voilà le monde aujourd'hui. Enfin, ici, la mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagneux. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce jeudi. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter d'agréables moments sur VOA Afrique. À très bientôt. Au revoir.